journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. C'est décidément une audience qui ne ressemble à aucune autre. Au procès du 13 novembre, la Cour va entendre François Hollande aujourd'hui en tant que témoin. Celui qui était chef de l'État à l'époque sera interrogé sur le déroulé de cette soirée tragique, ses décisions avant, pendant, après, les enjeux dès le début de ce journal. D'un président à l'autre, Emmanuel Macron tente lui de relancer la campagne pour la dose de rappel chez les seniors. Elle sera obligatoire pour conserver le pass sanitaire. Dans son allocution hier soir, il a aussi annoncé la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. On va y revenir. Au sommaire aussi, les transports au menu de la COP26. Où en est-on des relocalisations dans la filière auto? L'armée israélienne accusée de ficher des Palestiniens via la reconnaissance faciale. Et les premiers mots de Thomas Pesquet, de retour hier soir en Europe.
Invité de Léa Salamé à 7h50, tout à l'heure, la présidente de la région Île-de-France, candidate à l'investiture LR pour la présidentielle, Valérie Pécresse.
France Inter.
Une journée très particulière, Alexis, dans une audience hors norme.
Au procès du 13 novembre 2015, on s'apprête à entendre cet après-midi un ancien président. François Hollande va témoigner à la barre, lui qui était aux manettes durant cette soirée tragique.
Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur.
On se souvient de l'émotion de François Hollande lors de sa prise de parole ce soir-là. 6 ans plus tard, il devrait donc tout à l'heure livrer un propos liminaire devant la Cour avant de répondre aux questions. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Ce sera vraisemblablement, oui, un moment fort de ce procès, même si la venue de l'ancien président ne fait pas consensus.
C'était au tout début du procès, lors de l'appel des centaines de témoins prévus, la maire de Salah Abdeslam, le directeur de l'Institut médico-légal, les enquêteurs de la sous-direction antiterroriste, et puis Monsieur François Hollande annonce l'huissier. En défense, Maître Raphaël Kempf bondit. On ne comprend pas pourquoi il a été cité, si les parties civiles pouvaient nous donner des explications pour qu'on puisse préparer l'audition de cet individu.
En l'occurrence, Charlotte, c'est l'association de victimes Life for Paris qui est à l'origine de cette citation à comparaître.
L'association qui avance ses arguments. Le 13 novembre 2015, en plus d'être le président de la République, François Hollande est au Stade de France, là où tout débute. Plus tard dans la soirée, à peine l'assaut mené, il se rend au Bataclan, là où 3 des terroristes viennent d'assassiner 90 personnes et d'en blesser des centaines d'autres. Des djihadistes qui, pendant leur attaque, ont cité plusieurs fois l'ancien président de la République. Leurs propos, captés par le dictaphone abandonné d'un spectateur, ont d'ailleurs été diffusés à l'audience. Vous pourrez vous en prendre à votre président François Hollande, c'est lui qui vous a mené à ce massacre. Et ce n'est que le début. L'ex-président, encore cité par Salah Abdeslam lui-même, pour tenter, là aussi, de justifier l'injustifiable. Quand François Hollande a pris la décision d'attaquer en Syrie, il savait, a déclaré le principal accusé à l'audience, traduisait, il savait qu'il exposait la population française à de tels attentats. Bref, l'audition de l'ancien président cet après-midi devrait soulever de nombreuses questions et donc durer un temps certain. Dans son planning, le président n'a d'ailleurs prévu qu'un seul témoin après lui.
Cette audition doit débuter à 12h30. Vous la suivrez pour France Inter, Charlotte Piret, au procès des attentats de novembre 2015. Vivante, mais très choquée, l'adolescente de 17 ans qui avait disparu lundi soir en Mayenne a été retrouvée hier dans la soirée. Elle venait de se réfugier dans un kebab de Sablé-sur-Sarthe, à une dizaine de kilomètres de chez elle. Reste à déterminer maintenant ce qu'il s'est passé donc dans ce laps de temps de 24 heures.
Il est 7h33, 27 minutes de discours du sanitaire au nucléaire.
Emmanuel Macron a balayé de très nombreux sujets hier soir lors de son allocution solennelle. Face à la reprise épidémique, le chef de l'État annonce donc qu'à partir du 15 décembre, une dose de rappel sera nécessaire pour garder son pass sanitaire s'il en a plus de 65 ans. Campagne de rappel qui sera élargie aux plus de 50 ans dès le début du mois prochain. Mais cette partie sanitaire n'a finalement pas été la plus longue, loin de là. Très vite, le président est passé à son bilan économique, social et aux perspectives. Discours aux airs de campagne. Pas de réforme des retraites avant la fin du quinquennat, mais il faudra prendre des décisions ensuite, dès 2022, dit Emmanuel Macron. D'ici là, il veut relancer la construction de réacteurs nucléaires en France. Ça se confirme, la filière profite d'un vrai retour en grâce à l'Élysée. Il faut dire, Fabien Cazeau, qu'elle a multiplié les arguments ces derniers temps.
Premier allié de l'industrie nucléaire, la courbe des prix des hydrocarbures. Développer le nucléaire, selon ses partisans, cela permettra dans l'avenir de s'affranchir des caprices du marché pétrolier. Et aussi, deuxième argument qui porte en ces temps de COP26, où on réfléchit à la décarbonation de l'économie, de moins contribuer au réchauffement climatique. Un argument qui donne des ailes à la filière française, qui se voit déjà exporter des réacteurs pour permettre aux différents pays de tenir leurs engagements zéro carbone, et aussi pour préparer leur conversion aux énergies de demain, l'hydrogène vert notamment, auquel les plans de relance et d'investissement font la part belle. Grâce au nucléaire, pas besoin d'énergie thermique pour obtenir de l'hydrogène. Deux ombres subsistent néanmoins au tableau, la question des déchets, impossible toujours à éliminer, et les défis techniques que pose encore la construction de nouveaux réacteurs, qu'il s'agisse des SMR de moyenne puissance, il n'en existe aujourd'hui qu'un en Russie, ou qu'il s'agisse des projets géants type EPR, un chantier qui en France cumule encore retard sur retard.
Une relance du nucléaire qui fait réagir Yannick Jadot. Emmanuel Macron est décidément l'homme des lobbies pour le candidat écologiste. Enfin, le chef de l'État ne l'a pas mentionné hier soir. L'annonce est venue plus tard du ministère de l'Éducation. Le masque va redevenir obligatoire à l'école primaire dans toute la France dès lundi. Une trentaine de départements y échappaient encore. Les transports sont au menu de la COP26 aujourd'hui. Le trafic routier, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre. Alors une coalition de pays et de constructeurs va s'engager à Glasgow à ne plus vendre de voitures neuves thermiques à partir de 2035. Mais dans cette liste, aucun grand pays d'industrie automobile. Quant à la France, elle salue l'initiative mais ne la signera pas. Elle veut un sursis pour les véhicules hybrides. Mais pour améliorer le bilan carbone de la filière, il faut aussi que ces véhicules nouvelle génération ne soient pas fabriqués à l'autre bout du monde. En France, il a beaucoup été question de relocalisation ces derniers mois. C'était en tout cas une demande faite aux constructeurs auto qui ont bénéficié d'aides durant la crise. Alors qu'en est-il vraiment aujourd'hui ? Verdict, peut mieux faire selon les syndicats, Maxime Debs.
Chez Stellantis, on se félicitait il y a 15 jours. 1 100 000 moteurs électriques par an seront bientôt assemblés à Trémery, près de Metz. C'est sûr, dit comme ça, c'est une bonne nouvelle pour les syndicats.
Mais pour nous, le compte n'y est pas.
Christine Virasamy, déléguée CFDT chez Stellantis.
Nous savons, nous, que pour produire 1 100 000 moteurs à Trémery, il ne faut uniquement que 500 salariés sur un site constitué de à peu près 2198 salariés.
Et que dans le même temps, un moteur diesel occupant 500 salariés aujourd'hui à Trémery va voir sa production arrêtée d'ici 4 ans, avertit son collègue Jean-Marie Robert à la Fédération de la Métallurgie.
Le risque, c'est de ne mettre en avant que les soldes positifs de ce qui se passe sans contrebalancer les effets négatifs.
Et de rappeler que pour fabriquer un véhicule électrique, le besoin de main-d'œuvre est largement moindre.
On est en train d'emprunter la voie de la communication, qu'on est capable de créer de l'emploi à l'instant T sur des activités en lien avec le verdissement du transport. Mais on occulte complètement la gestion de la décroissance des effectifs. Et ça, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, en fait.
Quid à ce compte-là aussi pour les syndicats des véhicules électriques qui cartonnent en ce moment, mais produits loin de la France. La 208 chez Stellantis, conçue en Slovaquie, la Dacia Spring du groupe Renault, assemblée en Chine. Pour les partenaires sociaux, le chemin est encore long avant de pouvoir réellement parler de relocalisation.
Maxime Desps, service économie de France Inter. La régulation des géants du net au menu de l'Assemblée nationale comme du Sénat aujourd'hui. Députés et sénateurs vont auditionner tour à tour Frances Haugen. Cette ancienne employée de Facebook, devenue lanceuse d'alerte, est à Paris après Bruxelles avant-hier. Facebook qui vient de renoncer à la reconnaissance faciale sur ses plateformes. Une technologie très prisée par l'armée israélienne, à en croire ces révélations d'une ONG locale reprise par le Washington Post. Selon cette enquête, l'armée a développé un vaste système de reconnaissance faciale dans les territoires occupés pour ficher des Palestiniens de Cisjordanie. À Jérusalem, les explications de Frédéric Mettezo.
L'organisation Breaking the Silence a recueilli les confidences d'anciens soldats israéliens en Cisjordanie et ils racontent que depuis 2 ans, ils doivent prendre en photo avec leur téléphone portable un maximum de Palestiniens, peu importe l'âge ou le sexe, soit au barrage routier, soit lors des contrôles à l'entrée des colonies israéliennes ou tout simplement lors d'une patrouille. La photo est ensuite envoyée dans dans une base de données nommée Blue Wolf qui analyse le visage et le croise avec toutes les données des administrations et des services de renseignement israéliens. À Hébron, le dispositif va même plus loin puisque l'armée israélienne a placé des caméras de vidéosurveillance qui filment dans les rues et même parfois dans les maisons et qui alimentent Blue Wolf. L'armée n'a pas souhaité commenter ces révélations. Plusieurs députés israéliens du mouvement de gauche Meretz, membres du gouvernement, demandent un débat parlementaire en urgence. Ils dénoncent une invasion dans l'intimité des Palestiniens. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
Il est 7h39, il n'a même pas de cerne sous les yeux.
Oui, c'est un Thomas Pesquet, frais comme un gardon, qui est arrivé hier soir à Cologne, en Allemagne. Il va y subir une batterie de tests scientifiques dans la foulée de ses 6 mois en orbite dans l'ISS. Mais auparavant, l'astronaute français a pris le temps de vous répondre, Sophie Becherel.
Souriant, capable de marcher seul, sans fatigue apparente, Thomas Pesquet a raconté qu'il se sentait déjà très bien 18 heures après son amérissage. Bien sûr, après 6 mois passés à flotter dans l'espace, on ne sent pas son corps de la même façon.
Je me sens un peu lourd, évidemment. Alors, au début, rien que de soulever un téléphone, ça me paraissait absolument... On a l'impression qu'il y a vraiment un élastique qui tire vers le bas, parce que c'est ça la gravité, c'est un énorme aimant ou un énorme élastique qui tire tout vers le bas.
Il aurait bien envie de s'allonger pour se reposer, mais dit-il, pour récupérer vite, il ne faut pas se laisser aller. Cette envie permanente de se dépasser est raccord avec le programme que lui a concocté son chef, Frank De Wijn.
Il n'a pas de vacances, Thomas Pesquet, quand il revient, il doit travailler, les expériences, réhabilitation, des briefings pendant 1 mois, puis après on va planifier un peu de vacances, mais pas beaucoup, et puis naturellement après ça, on va voir comment on va construire le futur.
Savourer un bon petit déjeuner, dormir dans un lit, retrouver les amis, ce sont les choses simples auxquelles il aspire. Quant à la gravité, il faudra bien la réapprivoiser. Après sa première mission, un détail a marqué Sébastien Bard, le sous-directeur exploration et vols habités au CNES.
C'est l'anecdote qu'il m'avait racontée quand il est venu, c'est quand il se brossait les dents dans la station, il avait l'habitude de lâcher la brosse à dents pour pouvoir faire autre chose. Là, le premier jour, il lâche la brosse à dents, sauf la brosse à dents, elle tient pas tout seul à côté de sa bouche.
Enfin, même s'il ne l'avait pas anticipé, le retour sur Terre, c'est aussi le retour du masque anti-Covid.
Eh oui, Sophie Becherel, envoyée spéciale d'Inter à Cologne, et à peine revenue de la Station Spatiale Internationale, Thomas Pesquet est loin d'être rassasié. Pourquoi pas la Lune, maintenant? C'est l'un de ses nouveaux rêves. Et il faudra patienter. La NASA vient d'annoncer le report d'une éventuelle mission lunaire. Ce ne sera pas avant 2025 au plus tôt, et non 2024, comme l'avait promis Donald Trump en son temps.
Alexis Morel, merci. L'édito politique à suivre.